Alors, bonjour à tous. On va démarrer par la lecture d'un texte de l'Écriture qui fera écho au chant que nous a cité Diana. C'est un texte dans l'Apocalypse au chapitre 5. J'avais prévu de lire des versets 5 à 10, mais je vais prendre au verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et en dedans, scellé de sept sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On démarre l'année avec deux cultes importants. La semaine dernière, on a eu, je crois, deux paroles prophétiques qui nous rappelaient l'importance de la prière, de jamais baisser les bras, mais de les lever et de proclamer tout le temps l'action de Dieu, ici-bas, dans la vie de ceux qui nous sont chers, toutes les situations, les circonstances que nous connaissons. Et c'est toute l'Église qui a été impliquée ou appelée à lever les yeux et puis à continuellement apporter sa prière d'intercession à Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous a amenés à faire un retour en nous-mêmes et à dire: voilà, vous avez besoin encore de pardon, de grâce pour être libéré du péché. Depuis que nous connaissons le Christ Jésus, un des buts, j'allais dire, sinon le seul but de notre vie, c'est de connaître le Fils unique du Dieu vivant, Jésus-Christ, fait homme et Dieu. Si nous avons d'autres soucis, d'autres objectifs dans la vie, il est peut-être temps ce matin de les mettre de côté. Jean-Marc nous exhortait en début de culte à pouvoir dire au Seigneur: Je t'aime. Quand on aime quelqu'un, on en fait le centre de notre vie. En parlant cette semaine avec l'un d'entre nous, je disais: voilà, comment dans sa vie professionnelle on peut construire un projet professionnel, un des objectifs professionnels, quels sont nos projets, nos objectifs spirituels. Toute l'Écriture nous invite à découvrir, à connaître, à comprendre qui est le Fils de Dieu, le Christ Jésus. Et il y a, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, tellement de textes qui nous parlent de l'être de Dieu. Dieu, Père, Fils, Esprit. Et c'est tellement riche, pour moi, il me fera toute ma vie, toute l'éternité, pour le découvrir. Et c'est tellement extraordinaire. Quand je suis confronté à ce qui est Jésus, à tous ses titres, à tout ce qu'il est en lui-même, tout ce que Dieu a placé sur lui, souvent je me réjouis, j'ai envie de taper dans les mains et de dire « Oh !» Ce que Dieu est et ce que Dieu me révèle en Jésus-Christ est tellement extraordinaire. Ce que Jésus est, je le suis. Pas encore en totalité, en plénitude, ça sera, c'est en cours. Ça vient, c'est en formation. Mais ça devrait réjouir nos cœurs de savoir que Dieu a un projet, des objectifs, un but dans notre vie pour que nous soyons les uns les autres semblables à Jésus-Christ. C'est le projet de toute une vie. Plus vite, plus tôt on en prend conscience, mieux c'est. Jean-Marc nous a parlé du psaume 22, crucifixion. Psaume 23, Dieu est mon berger. Psaume 24, élevez, porte, élevez, volanteau, porte de teint, que le roi de gloire fasse son entrée. Au moment présent où l'on parle, Jésus dans la gloire. Et celui qui est dans la gloire, alors ces deux visions qui se télescopent, qui nous bousculent peut-être un peu, le texte nous dit là que sur le trône, il y a quelqu'un qui est comme un lion. Et puis tout de suite après, il nous a dit, sur ce trône, il y avait un agneau. C'est deux révélations qui se télescopent, deux états de... Depuis tout à l'heure, je cherche quels sont les bons mots. Ce n'est pas des manières d'être. En même temps, le Christ Jésus qui a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et il se révèle à nous dans ces deux états. Il est le lion de la tribu de Juda, quelqu'un qui est fort, qui est la force de Dieu. Il est le bras droit de Dieu. Et il vient pour juger la terre, les hommes, les nations. Tout homme devra rendre compte à Dieu de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Et puis en même temps, je vis au milieu du trône un agneau qui était comme immolé. Dieu nous révèle en même temps toute sa faiblesse. Toute sa faiblesse. Et le Seigneur nous l'a rappelé ce matin par la parole prophétique. Il a accepté l'humiliation suprême. Il a accepté d'être cloué sur une croix pour le pardon des péchés, que la grâce de Dieu puisse venir en nous. Deux visions de Dieu, du Christ, qui sont différentes. La vision de le lion de Juda nous vient de tout un courant apocalyptique qui était lié en Israël. L'Apocalypse nous en parle, mais elle nous parle aussi beaucoup de l'agneau. L'Apocalypse, c'est le livre de l'agneau. Il y a 28 entrées, 28 fois. Il est fait mention dans l'Apocalypse de Dieu comme agneau. Avec plusieurs expressions, la colère de l'agneau, le sang de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, le cantique de l'agneau, les noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau, l'épouse, la femme de l'agneau, les 12 apôtres de l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau. Plein d'expressions qui nous parlent de l'agneau. L'agneau nous parle de faiblesse, mais en même temps, ça se télescope avec la gloire de Dieu. Si vous reprenez un jour, si vous avez le courage de lire de manière cursive et rapide les écrits de Paul, de Pierre, vous verrez que pour ces deux hommes, il y a cette double révélation. Dieu comme serviteur souffrant, Dieu comme homme souffrant, pour les hommes qui a partagé nos douleurs, nos craintes, nos difficultés. Et puis le Dieu victorieux qui est comme un lion, celui qui va se lever, qui va aller du combat. J'aimerais voir avec vous eh bien, comment s'articulent ces deux révélations. Les deux sont justes. Sur la terre, dans nos vies, dans nos cœurs, quand Dieu est confronté à un homme, il se révèle d'abord comme un agneau. Il est celui qui a pris mon péché, notre péché de toute l'humanité. Mais en même temps, il est celui qui se dresse en nous et qui dit, voilà, tiens-toi debout et entre dans la victoire sur le péché et dans la victoire sur les circonstances de la vie. On retrouve plusieurs fois par chapitre toutes ces expressions dans le chapitre 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 de l'Apocalypse. 28 fois, il est fait question de l'agneau. C'est une très belle révélation. Je ne sais pas si vous en avez déjà pris acte ou si vous avez déjà été réveillé par rapport à ce titre de Jésus, à cet état ou cette manière d'être de Jésus. Ça se télescope un petit peu parce qu'il est question d'un agneau comme immolé. Il a 7 cornes. Il a 7 yeux et 7 esprits. Ça nous parle aussi des images. Les images qui nous représentent qu'est-ce qu'est Christ en esprit et en vérité. Les cornes dans l'Écriture, c'est le symbole de la force. Les bêtes à cornes, c'est des bêtes qui ont de la force. C'est une révélation qui est un petit peu étrange. L'agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes, 7 yeux. C'est-à-dire, il voit tout. Et il a 7 esprits qui sont envoyés par Dieu sur toute la terre. Dieu, ça nous parle de Christ, de Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Comment est-ce que cela peut cohabiter dans un agneau ? Moi, ça m'a toujours intrigué. Il faudrait que je soumette ce texte un jour à Jean-Marc Tobois. J'aimerais bien avoir son regard sur cette double appartenance, cette double manière d'être. Comment est-ce qu'un agneau qui symbolise la faiblesse, peut-être l'intériorité, un agneau aujourd'hui, ça compte pas pour grand-chose. On mange assez peu d'agneaux à la maison, mais il y a des sociétés, je pense qu'au Moyen-Orient, on en mange beaucoup. Quand on parle de la maltraitance animale, c'est vrai qu'on pense toujours à ces animaux à cornes, à des animaux qui ont du poids, qui sont maltraités. Je ne me suis jamais intéressé comment est-ce que l'agneau se retrouve sur l'étal du boucher. On sait qu'à Jérusalem, voilà, le temple, je dis souvent, c'était une énorme boucherie. Il y avait des oiseaux, des agneaux, des bœufs. Il y avait toute une technique des bergers. J'avais entendu un pasteur qui avait été berger parler d'un moment donné. Les animaux ont beaucoup de sensibilité au niveau de sentir. Et il y a des bergers parfois qui approchent, pour approcher le troupeau dans certaines circonstances, eh bien, revêtaient un manteau, un habit, une peau de mouton. Souvent, le troupeau de moutons, celui qui la dirige, c'est soit une vieille brebis, soit un bélier. Elle est acceptée, c'est elle qui est la chef. Comment est-ce que cette vision du troupeau de moutons, de brebis avec des agneaux, comment est-ce que ça peut être compatible avec cette vision des cornes, des yeux, des esprits qui nous parlent de toute puissance, de toute connaissance? C'est un mystère dans lequel nous devons apprendre à entrer les uns et les autres. Tous ces textes existent, ils sont dans l'Écriture, ils font partie de la révélation du Dieu vivant et vrai. Comment est-ce que je peux lire ces textes et dire, voilà, Seigneur, merci de me révéler qui tu es quand tu es un agneau. Quand tu es quelqu'un sujet à la faiblesse, quand tu me rencontres dans mes craintes, dans mes peurs, quand on rencontre Dieu en esprit, en vérité, on rencontre Dieu avec un cœur d'agneau, avec quelqu'un qui aime accompagner l'homme dans ses souffrances, dans ses difficultés, quelles que soient les circonstances. Et il y a parfois des circonstances dans nos vies, voilà, qui peuvent... Seul le Christ peut partager les choses les plus difficiles, les plus profondes, les plus intimes, les plus graves en nous. Et pour ça, Dieu se révèle comme un agneau. Il est le serviteur souffrant. Il est celui qui nous accompagne au plus profond de nous-mêmes dans la difficulté. Et puis en même temps, celui qui est capable d'entrer en jugement. C'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Ça nous amène à toute une révélation qui démarre depuis la Genèse. Deux expressions qui nous présentent le Christ ressuscité, représenté sous le trait d'un agneau, égorgé, mais en même temps vivant et glorieux. Il mène le combat, il libère le peuple de Dieu avec la force d'un lion, issu de la tribu de Juda. Je disais, c'est la faiblesse et la force. C'est un petit peu des images qui se télescopent. Il est le maître de l'histoire et il invite les hommes à le suivre jusqu'au jour de ses noces. On a tellement d'expressions qui nous parlent de l'agneau de Dieu, jusqu'aux noces de l'agneau. Est-ce que nous avons envie d'être fidèles et d'arriver, de connaître Dieu, pour être un jour aux noces de l'agneau? Ce n'est pas seulement parce que j'aime bien manger que j'aime les desserts. Mais je trouve que c'est tellement beau d'être aussi ensemble dans ces repas que Dieu nous propose. À Cana, Jésus a inauguré quelque chose dans la joie. Il a changé l'eau en vin. Dieu aime se réjouir avec son peuple. Et je me réjouis de rencontrer un jour le Christ en tant qu'agneau de Dieu à ses noces. Plein d'expressions qui se télescopent. On va les prendre le temps de reprendre tout ça. Il est question de l'épouse et de la femme de l'agneau. Alors, c'est quoi cet être un petit peu étrange? J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Alors quand je suis confronté à des images comme ça, je suis un petit peu multiforme dans ma tête. Et puis je me dis, waouh, mais comment est-ce que tout ça, cela peut s'articuler, se combiné. Comment est-ce qu'un jour, moi, Michel Calin, je pourrais être celui qui l'épouse, la femme de l'agneau. Tout ça, ça nous parle d'images, mais qui sont très fortes, mais qui ont un contenu, qui ont une révélation. Pour vous dire que j'ai pas inventé ça, c'est pas de la science-fiction, c'est pas... Apocalypse chapitre 21. Versets 9 à 12, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa cette parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Jean-Marc nous a lu ce matin. Élevez les linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Un jour, j'entrerai dans la Jérusalem céleste en tant que femme épouse de l'agneau. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, Israël, tout ce qui appartient à Christ, tout le monde, voilà, dans ce même élan pour aller vers ces noces de l'agneau, pour aller à la rencontre du Christ, agneau de Dieu, ressuscité, mais qui est aussi assis sur le trône. Très bientôt, il va se lever. Puis il va dire, hein, l'humanité, les hommes, stop, ça suffit. Plusieurs révélations. Jésus comme agneau pascal, qui rachète les hommes au prix de son sang. Texte de Exode, on va le voir. Dieu, le Christ, l'agneau muet, jusqu'au sacrifice de sa vie. La révélation de l'agneau de Dieu, elle démarre dans le livre de l'Exode. Mais c'est aussi le bras de Dieu, le bras de la victoire, la main droite de Dieu, un jour qui se lèvera. C'est en même temps les souffrances du serviteur de Christ, c'est en même temps le Rédempteur puissant. C'est beaucoup de choses qui sont ensemble. On prend un texte dans Exode au chapitre 12. On va voir un petit peu l'origine, le démarrage de cette histoire de l'agneau. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain, les herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes, l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la Pâque, à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. On rejoint cette vision dans le repas du Seigneur. Christ est l'agneau de Dieu, celui qui a un an, mâle, sans défaut, sans tâche, sans reproche, innocent. Celui qui va aller jusqu'au sacrifice suprême. Celui dont le sang va être mis sur les linteaux des portes de tout le monde en Israël avant que le jugement n'arrive dans le pays d'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte vont être frappés, sauf là où il y a eu le sang sur les linteaux. Je pense que le peuple était assez nombreux. Ça a fait beaucoup d'agneaux sacrifiés. Israël vit toujours cette Pâque aujourd'hui. C'est une loi qui est perpétuelle en Israël. Même s'il n'y a plus les sacrifices en temple, la Pâque est toujours célébrée en Israël. Notre Pâque, c'est le repas du Seigneur. Le pain, le vin que nous partageons. Mais je vous demande d'être attentif à la manière dont ils devaient le manger. Vous aurez vos ricins, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. Quand je suis en relation avec l'agneau de Dieu, je dois toujours être bien réveillé, toujours prêt à partir, obéissant. C'est l'appel que Dieu adresse à tous les hommes. Lève-toi, toi, et va. Va annoncer ma parole à Abraham. Va, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est la parole qui est adressée à chaque chrétien à chaque fois que l'on partage le pain et le vin. Sors de cette société. Rejoins l'Église. Dis oui à Jésus, viens faire partie de quelque chose d'autre. Viens recevoir cette révélation de l'agneau de Dieu. Saint terrain, lève-toi. Puis même toi, sois plein de force. Sois prêt à marcher. C'est la Pâque de l'Éternel, c'est l'agneau de Dieu. C'est le sang répandu, immolé pour les péchés du monde. Et ce matin, nous avons l'occasion de répondre, oui Seigneur, je crois. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Je te suivrai. Je veux te dire, je t'aime. Je t'aime, agneau de Dieu. C'est une révélation qui est vraiment extraordinaire. Elle sera reprise par Jean le Baptiste. Toute la révélation du lion de la tribu de Juda est plus difficile, plus compliquée. Pendant longtemps, en Israël, on n'aimait pas trop les lions. Dans les déserts, il y avait des lions. Puis de temps en temps, ils allaient sur les routes, ils s'approchaient des villes. Et l'écriture, ça démarre déjà dans le livre des Juges, eh bien, qui déchirait les êtres humains qu'il rencontrait. Donc le lion a été longtemps le symbole de la bête sauvage qui agresse, qui attaque les hommes. C'est la force brutale de l'ennemi. Quelques textes aussi dans le Nouveau Testament qui disent « Faites attention au lion ». Donc là aussi, hein, c'est une révélation qui est un petit peu difficile. Et puis en même temps, on voit dans l'Apocalypse que le lion, c'est la parole puissante de la voix de Dieu. Dieu parle et rugit comme un lion. Et c'est la victoire du héros. Il y avait ce trône, celui qui était sur le trône, était le lion de la tribu de Juda. On va voir tout ça en détail. Première chose, le lion, eh bien, c'est l'ennemi, la force brutale. On lit ça dans le livre de Daniel, dans le livre des prophètes. Daniel, chapitre 6, verset 16. Toute personne adorant d'autres dieux que le roi Darius est condamnée à être jetée au lion. Et Daniel va en faire les frais. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Les lions étaient utilisés dans les jeux du cirque, par les lois, pour faire peur à leur opposant. Daniel, chapitre 6, verset 22. « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Daniel a été sauvé, délivré de la gueule du lion. Une autre image qui nous télescope un peu, c'est dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 4, les versets 16 à 18. Paul est en prison, il est entouré de frères qui le trahissent, qui l'abandonnent, et il se rappelle de cet épisode de Daniel. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent, j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Encore un autre texte dans 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes choses, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le lion a plusieurs images dans l'Écriture. Et il y en a une où c'est quelque chose de pas facile à gérer. L'Écriture dit qu'il cherche à nous attraper. Mais l'Écriture nous dit aussi que Dieu nous délivre. Daniel a été gardé dans la fosse aux lions. C'est une histoire qui est célèbre. Je pense qu'elle a fait déjà le tour du monde. Paul en prison, à cette parole, dit « J'ai été délivré de la gueule du lion ». Et je pense qu'il pensait aussi à ce que Daniel avait vécu. Ça fait du bien d'avoir des exemples où Dieu a délivré des hommes. Dieu a délivré Daniel, Dieu a délivré Timothée. Paul dans le livre de Timothée. Et puis, l'apôtre Pierre nous met en même temps en alerte. Il dit « Voilà, faites attention ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça fait partie de la révélation sur ce qu'est le lion. Mais c'est aussi une voix puissante, parole prononcée par le Dieu vivant. Apocalypse au chapitre 17. Les versets 14. On est dans tous ces jugements de Dieu qui arrivent. Au verset 14, il est dit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Là, c'est une image qui me bouscule, qui se télescope un peu. C'est l'image d'un agneau victorieux. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Que le roi de gloire fasse son entrée aussi dans nos vies. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il y a des bascules à faire dans nos vies. Le Christ Jésus se rappelle dans nos vies comme celui qui a été élevé sur la croix, qui a versé son sang, celui qui est faible avec nous. Et puis, en même temps, à un moment donné, cette faiblesse, elle se transforme. Et elle se transforme en victoire et en gloire. Je vous relis le texte, hein, parce que parfois, il faut se pincer, on se dit, est-ce que j'ai rêvé, ou est-ce que j'ai mal lu, est-ce que j'ai mal compris ? Beaucoup d'armées, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Nous pouvons avoir dans nos vies une vie de victoire. Parce que l'agneau qui a souffert, qui a été faible, en même temps se révèle comme celui qui est fort et qui s'élève dans nos vies et qui nous conduit pas à pas à la victoire. Ça pourrait être des images contradictoires, des images qui se télescopent. Et en même temps, c'est une réalité. On termine pour ce matin avec Apocalypse, chapitre 10, et le verset 3. Ouais, je vais lire au verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Dans tous les jugements à venir, L'agneau rugit comme un lion. L'image, elle est là, elle est comme ça, elle se révèle à nous comme cela. Ça a été une mode, il y a un peu plus de 20 ans, dans une des villes du Canada, que des chrétiens se mettent à rugir pour être dans cette symbolique prophétique. Je ne sais pas s'il faut tout le temps le faire, peut-être vous le ferez une fois dans votre vie, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais fait, ce n'est pas ma nature. Mais en même temps, on peut parler d'une voix forte. Et le Christ Jésus peut parler aussi d'une voix forte dans notre vie. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Le jour où Jésus va se lever du trône et va entrer en jugement avec les hommes, les nations, les rois, je pense que ce sera comme le rugissement d'un lion, quand il va révéler sa force. On continuera à travailler ces deux thèmes, Christ comme agneau de Dieu, Christ comme le lion de la tribu de Juda. On continuera à voir quels sont les textes qui nous parlent et puis comment s'articulent ces deux visions. Mais ayons conscience simplement que ces deux choses sont vraies, sont justes et sont réelles. Et que les deux peuvent cohabiter dans notre vie. Gardons, cherchons cette révélation de Christ, agneau de Dieu, mais cherchons aussi le Christ victorieux, ressuscité à la droite de Père, celui qui se lève dans nos vies, avec aussi pour chacun d'entre nous une vie de victoire. Je vous laisse avec ces textes et ces pensées, et puis on continuera la fois prochaine.